spermatozoïdes par million, un flot, un torrent de spermatozoïdes. Tous vont mourir, tous, sauf un. Pour eux, les messagers de la vie, c'est le début d'une véritable course au trésor, d'un sprint éperdu de plusieurs heures vers un rendez-vous galant, avec au bout, peut-être, la récompense due au vainqueur et une fabuleuse promesse de vie. La rencontre avec un ovule.
Et pourquoi le sexe dans le vivant? Drôle de question aujourd'hui, la une de la science, Axel Villard. Et
pourtant, Mathieu, quand on y réfléchit un peu, elle est parfaitement légitime. Si la finalité du sexe est de se reproduire, pourquoi s'embêter à chercher un partenaire, tout mettre en œuvre pour échanger du matériel génétique avec lui et espérer la réussite de la fécondation, alors qu'on pourrait tout simplement se dupliquer? La question taraude les biologistes depuis 50 ans et aujourd'hui, un chercheur de Montpellier propose une nouvelle explication plutôt séduisante. Le sexe est peut-être la meilleure arme jamais inventée pour éviter la transmission des cancers. Bonjour Frédéric Thomas, cette idée c'est la vôtre.
Bonjour.
Vous êtes biologiste de l'évolution, directeur de recherche pour le CNRS, avec nous depuis les locaux de France Bleu à Montpellier. Alors on viendra dans une seconde partie à cette histoire de cancer, j'aimerais qu'on revienne sur le postulat. Pourquoi le sexe ne semble pas la meilleure idée quand on souhaite se reproduire?
Alors c'est en effet une des plus grandes énigmes pour les biologistes de l'évolution, parce qu'en fait le clonage, hein, se dupliquer à l'identique, semble en effet être bien plus simple et plus efficace pour se reproduire. Par exemple, pas besoin de rechercher et de séduire un partenaire sexuel, ce qui sauve du temps, de l'énergie, des ressources. Hein. Imaginez la queue du paon par exemple, ça évite des risques de prédation, d'exposition à des parasites sexuellement transmis. Idem si vous êtes parfaitement adapté à votre environnement, autant donner des descendants qui vont être identiques à vous-même, plutôt que d'aller casser ces adaptations avec des combinaisons génétiques, etc. Bref, il y a encore plein de coups. Le sexe, disons-le, c'est risqué et coûteux, et pourtant, c'est la règle. Donc il y a un vrai paradoxe, et c'est vrai que les biologistes de l'évolution cherchent depuis plus de 50 ans les bénéfices, puisque s'il y a des coûts et que c'est malgré tout présent, en monnaie darwinienne, c'est parce que finalement le bénéfice est supérieur au coût. Donc toutes les recherches ont essayé de déterminer ces bénéfices. Alors on en a identifié, hein. On sait par exemple que le sexe permet de réunir plus rapidement, dans un même individu, des bonnes mutations. À l'inverse, ça permet aussi de rebrasser à chaque génération et donc du coup on n'est pas condamné à accumuler inexorablement des mauvaises mutations. Et puis l'hypothèse sans doute la plus célèbre, c'est celle qu'on appelle l'hypothèse de la reine rouge, qui propose que le sexe permettrait de générer à chaque génération des descendants nouveaux et donc de mieux résister aux parasites qui eux évoluent très vite.
Mais alors, si
ces explications sont...
Oui, si vous proposez
bonnes,
aujourd'hui une nouvelle explication, c'est bien que toutes celles qui ont été apportées jusqu'à maintenant ne suffisent pas alors.
Elles suffisent pas parce qu'en fait, elles n'expliquent pas pourquoi certaines espèces font du sexe permanent, obligatoire.
Ouais.
Puisque toutes les explications que je viens de donner là, en fait, ça marcherait très bien si on faisait de la reproduction sexuée et asexuée à la fois. Hein. C'est-à-dire qu'on alternerait les deux. Donc, c'est pas le cas pour plein d'espèces. Le sexe est obligatoire. Et donc là, c'est une vraie question. Pourquoi certaines espèces font du sexe obligatoire?
Alors, votre théorie très nouvelle se résume en une phrase. Hein. Le sexe est apparu comme une opportunité de protection contre un fléau qu'on connaît tous aujourd'hui, le cancer. Expliquez-nous un peu le lien entre les deux et comment vous l'avez fait alors.
Alors effectivement, dans cette publication, nous avons proposé que la reproduction sexuée a évolué car elle permettait de mieux contrecarrer les infections par des cellules cancéreuses transmissibles. Donc voilà qui est surprenant, j'imagine que ça mérite des explications. Donc comme on l'avait vu dans une des émissions précédentes où vous m'aviez invité, les premiers organismes multicellulaires avaient comme contrainte majeure la gestion des cellules tricheuses, les leurs, mais très probablement aussi celle des individus dans le milieu, hein, avec des défenses anticancères qui étaient naissantes et sans doute rudimentaires, puisque c'était la première fois dans l'histoire du vivant que nous avions des sociétés de clones. Et donc les cellules tricheuses transmissibles devaient même sans doute être un véritable fléau pour les premiers organismes multicellulaires du précambrien, donc il y a plus d'un demi-milliard d'années. Il y a d'ailleurs encore des cancers contagieux, j'en ai parlé la dernière fois avec les diables de Tasmanie, avec également chez des bivalves, c'est sexuellement transmis chez les chiens également. Et en fait, une première étape dans toute forme de lutte contre un envahisseur, c'est de l'identifier comme un étranger, du non-soi, comme disent les immunologistes. Alors c'est vrai qu'un mode de reproduction sexuée ou asexuée, ça n'influence pas la capacité à reconnaître un étranger comme un parasite classique, puisque c'est une espèce qui est différente, donc il possède un génome différent. Mais la tâche peut sembler beaucoup plus ardue vis-à-vis de cellules cancéreuses au sein d'une espèce à reproduction asexuée, parce que si vous êtes identique génétiquement à votre voisin, eh bien les cellules cancéreuses qui émergent dans son organisme sont tout aussi proches de vos cellules saines que des siennes, et donc déjà préadaptées à votre organisme.
Et en plus de ça, j'imagine que quand on se clone et qu'on a un début de cellules tricheuses ou un début de cancer, on le transmet à son clone. C'est comme ça qu'il faut le voir.
Par exemple, j'ai les hydres que je possède dans mon laboratoire qui peuvent se reproduire de façon asexuée, hein, par bouturage, hein, elles bourgeonnent. Eh bien, effectivement, les individus qui sont porteurs d'une tumeur, eh bien, ils bourgeonnent en transmettant directement le cancer à leurs descendants. Alors que lorsqu'ils font de la reproduction sexuée, ça passe par des gamètes et leurs descendants n'ont pas le cancer.
Est-ce qu'on sait quand est-ce qu'est apparu le sexe dans l'histoire du vivant multicellulaire?
Oh, c'est une histoire compliquée. C'est apparu certainement depuis l'origine de la vie. Si on prend comme définition du sexe l'idée de simplement brasser de l'ADN pour générer des conditions nouvelles. Mais en tout cas, par rapport au cancer, une façon radicale de reconnaître toutes les cellules cancéreuses contagieuses qui tenteraient de vous envahir, c'est d'être unique. Et c'est vrai que la reproduction sexuée et la recombinaison conduisent à cela. Au sein d'une espèce sexuée, les cellules cancéreuses produites par un individu sont, en cas de contagion, immédiatement reconnues comme du non-soi. Et donc, ça permet d'éviter de contaminer également vos propres descendants. Mmh. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est de savoir est-ce que cette histoire est compatible avec les observations, et la réponse, en fait, est oui à plusieurs niveaux. Hein. Par exemple, chez l'homme, des cas de transmission de cancer de la mère à l'enfant pendant la grossesse concernent des cellules cancéreuses qui disposent d'adaptations particulières qui leur permettent justement de ne pas être reconnu. Si vous avez des jumeaux, c'est des vrais jumeaux et qui sont identiques génétiquement, eh bien si malheureusement l'un développe une leucémie in utero, eh bien il va la refiler à l'autre. Ce qui n'arrive pas si c'est des faux jumeaux, puisque dans ce cas-là, eh bien les cellules cancéreuses sont détectées comme des intrus et elles sont éliminées.
Alors, maintenant que Frédéric Thomas, votre théorie est formulée, elle est publiée, il va falloir l'éprouver en quelque sorte. Comment est-ce qu'on pourrait quantifier cet effet protecteur ou le tester expérimentalement? Est-ce que vous avez des idées pour aller un peu plus loin?
Alors, la façon idéale, à mon avis, de le tester, ça serait, par exemple, sur des souris, de faire porter par une femelle, une mère cancéreuse, un embryon cloné, c'est-à-dire identique à la mère, et un embryon issu de reproduction sexuée. Et la prédiction, c'est que l'embryon qui est identique à la mère devrait malheureusement être infecté par les cellules cancéreuses de la mère, et donc donner naissance à une petite souris qui a un cancer. Donc, ça serait l'idéal pour le tester. Sinon, il y a plusieurs observations qui sont compatibles avec cette théorie. Et donc c'est juste le début. Hein. Mm-hmm. On espère que certains vont s'emparer du sujet et tester et mettre à l'épreuve cette hypothèse.
Merci beaucoup Frédéric Thomas. Ça vient juste d'être publié. C'est dans PLOS ONE, hein, c'est
PLOS
ça
Biology.
PLOS Biology. Ah, voilà. PLOS Biology. Cette publication donc, autour du sexe et du cancer. Merci beaucoup à vous. Je signale le titre de ce livre dont vous étiez venu nous parler effectivement dans l'émission L'abominable histoire du cancer, publié chez Humaine Science. Merci à vous. Et Axel, on se retrouve lundi.
À lundi, bon week-end.